Le journal est présenté par Anne-Laure Chouin. Bonsoir Anne-Laure.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La guerre est déclarée entre l'Élysée et le Sénat après la décision du bureau de la Chambre haute de transmettre à la justice ses éléments sur l'affaire Benalla. Elle devra décider s'il y a eu notamment faux témoignage. Trois membres proches de la présidence sont impliqués par le Sénat et cet après-midi, les premières mesures de rétorsion de l'exécutif sont tombées. C'est ce que nous dira Stéphane Robert. Nous évoquerons également la situation de certains collèges et lycées de Saint-Denis où les rivalités entre bandes s'invitent à l'intérieur des établissements. Plusieurs élèves sont hospitalisés. Et une réunion cet après-midi n'a pas permis de trouver de solution, nous dira Cécile de Kervas-Doué. L'actualité européenne, c'est ce sommet des chefs d'État européens qui doivent se prononcer sur la demande de report du Brexit de quelques semaines. Nous irons à Bruxelles avec Bertrand Galichet, nous irons au Venezuela également, où le directeur de cabinet de l'opposant Juan Guaido a été arrêté cette nuit pour possession d'armes, une arrestation politique, selon lui, nous dira Benjamin Delisle. Et puis nous entendrons le caricaturiste algérien un dilemme à la veille d'une nouvelle manifestation anti-Bouteflika demain à Alger. Depuis un mois, le dessinateur se passionne pour cette jeunesse qui descend dans la rue. Un camouflet pour l'Élysée, la décision des sénateurs de saisir la justice sur le cas non seulement d'Alexandre Benalla, mais aussi de plusieurs hauts responsables de la présidence de la République mis en cause dans cette affaire. Cette décision a déclenché les foudres de l'exécutif et de la majorité. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a beau se défendre cet après-midi d'être en guerre contre l'exécutif, le fait est que cette décision sénatoriale est une gifle. On rappelle donc que la commission d'enquête sénatoriale mise en place pour évaluer le fond de ce qu'on appelle l'affaire Benalla a estimé que non seulement Alexandre Benalla, Vincent Kras et Patrick Strozda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, auraient pu émettre des faux témoignages, mais ils mettent également en cause le bras droit du président Alexis Kohler et le général Lionel Lavergne, chef du groupe de sécurité de la présidence. Des éléments transmis au bureau du Sénat qui a donc transmis à son tour à la justice. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Anne-Laure.
Désormais, l'exécutif est vent debout.
Oui, c'est le branle-bas de combat. L'exécutif ne digère pas la décision prise ce matin par le bureau du Sénat à une très large majorité, 17 voix pour, 7 voix contre. On pensait que le vote serait serré, mais finalement la droite, dans son ensemble, s'est alliée aux socialistes et aux communistes et renvoie devant la justice pour suspicion de faux témoignages Alexandre Benalla, Vincent Kras, mais aussi le directeur de cabinet du président de la République, Patrick Strozda. Les deux autres, Alexis Kohler et le général Lavergne, font eux aussi l'objet d'une saisine judiciaire, mais pour contradiction et incohérence, ce sera donc pour ce qui les concerne au procureur d'apprécier s'il y a lieu d'engager des poursuites. Le gouvernement est donc vent debout. Le Premier ministre Édouard Philippe a volontairement boycotté les questions au gouvernement qui se déroulaient au Sénat cet après-midi. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, a annulé une visite prévue avec le président du Sénat, Gérard Larcher, demain à Sciences Po à Lille, et le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, se répand dans tous les médias pour dire tout le mal qu'il pense de cette décision qu'il qualifie de politique.
L'Assemblée des sages s'est mue, en tout cas une partie d'entre elles, son bureau, en tribunal politique. C'est le choix qu'a fait le bureau du Sénat, nous le regrettons. Je crois que dans la période que nous vivons, il est important que chaque institution joue pleinement son rôle de contrôle de l'exécutif, et c'est évidemment le rôle des assemblées, mais aussi d'un certain sens de l'unité nationale et du moment que nous sommes en train de vivre en particulier.
Les sénateurs de leur côté ne se laissent pas impressionner, chez les Républicains en particulier. Le vice-président du Sénat, Philippe Dallier, explique ne pas comprendre le procès qu'il aurait fait.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il aurait fallu que nous ne fassions pas notre travail simplement pour ne pas déplaire un tel ou un tel? Mais dans quelle démocratie est-ce que nous serions à ce moment-là? Qu'est-ce qu'en auraient pensé les Français? Ce qui nous importait, c'est expliquer ce qui s'est passé, rechercher la vérité. C'est le rôle constitutionnel des commissions d'enquête. À partir du moment où certains se sont permis de cacher la vérité ou de ne pas dire la vérité, il y a des conséquences. Eh bien, ils assumeront les conséquences de ce qu'ils ont dit ou de ce qu'ils n'ont pas dit.
Ce qui explique cette décision des sénateurs, c'est donc bien sûr le fait qu'ils ont mis en valeur un certain nombre de contre-vérités à travers leurs auditions. Mais au-delà du droit, il y a sans doute aussi deux autres motivations beaucoup plus politiques. Premièrement, avec cette affaire Benalla, le Sénat s'est retrouvé médiatiquement exposé et il a démontré qu'il pouvait être utile. Et ça, alors que grandit la défiance vis-à-vis du monde politique et qu'une partie de la population réclame sa suppression, la suppression de la seconde chambre du Parlement, c'est précieux. Il fallait donc aller jusqu'au bout de ce qu'avait conclu la Commission. Deuxièmement, dans un contexte de décomposition, d'archipélisation du paysage politique, le Sénat se révèle être le dernier endroit où l'opposition, de droite comme de gauche, peut encore espérer exister. Et elle y exerce donc pleinement son rôle de contre-pouvoir et adresse un insolent pied de nez en direction du nouveau monde macronien.
Merci beaucoup Stéphane Robert. Il avait allumé la mèche avant de tenter de l'éteindre ce matin. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a précisé en installant le nouveau préfet de police de Paris que les militaires de Sentinelle, ce dispositif antiterroriste, seront mobilisés mais pas pour le maintien de l'ordre samedi prochain lors de la nouvelle manifestation des Gilets jaunes. C'était pourtant l'idée émise en début de semaine, idée qui avait ému les spécialistes des questions de sécurité comme les militants des droits de l'homme et l'opposition. L'armée elle-même s'est fendue ce matin d'une mise au point. Il ne lui revient pas de participer au maintien de l'ordre. Écoutez le colonel Guillaume Thomas, porte-parole adjoint de l'état-major des armées, qui s'exprimait au micro de Nathalie Hernandez.
Sur l'opération Sentinelle, il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce qu'il n'y a pas de raison de voir des soldats de l'opération Sentinelle au contact des émeutiers. Je rappelle que les soldats de l'opération Sentinelle n'ont pas vocation à faire du maintien de l'ordre. Ils n'auront pas vocation à se retrouver au contact des manifestants ce week-end. Ils seront chargés de remplacer les forces de sécurité intérieure dans le cadre de la protection de certains sites sensibles contre la menace terroriste. Pour des raisons de sécurité, je ne vous dévoilerai pas les sites qui seront protégés par les militaires de l'opération Sentinelle. Je peux vous dire que ce ne seront pas des sites qui seront à proximité des manifestations prévues. Donc il n'y a rien de nouveau quelque part par rapport à ce qui est déjà réalisé les week-ends précédents. Mais quand je dis qu'il n'y a rien de nouveau, je veux dire par là que la mission des militaires de l'opération Sentinelle reste la même, la lutte contre la protection contre la menace terroriste et non pas le maintien de l'ordre. Les soldats de l'opération Sentinelle savent anticiper les situations, le cas échéant faire appel aux forces de sécurité intérieure s'ils étaient témoins de pillages ou d'autres exactions qu'ils pourraient voir, et voilà.
Le colonel Guillaume Thomas à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. La violence entre bandes rivales s'introduit désormais à l'intérieur des établissements, collèges et lycées. Nous évoquions ce matin dans nos journaux le cas du collège La Courtille dans le quartier du même nom où un professeur a été passé à tabac en tentant de protéger un de ses élèves. Dans un lycée voisin, le lycée Paul-Éluard, ce sont trois lycéens qui ont été blessés lors d'une expédition punitive à l'intérieur, là encore, de l'établissement. Ce matin, la mairie de Saint-Denis accueillait une réunion sur le sujet avec tous les acteurs concernés. Bonsoir Cécile de Carvaz-Doué.
Bonsoir.
Résultat en résumé de cette réunion, ça n'est pas une question de moyens, il n'y a pas vraiment de solution.
On vous écoute, on vous comprend, mais la violence n'est pas une question de moyens supplémentaires. C'est à peu près en creux la réponse qui a été faite ce matin aux enseignants du quartier de La Courtille par les services de l'État. Pourtant, comme partout ailleurs dans le 93, ces établissements prioritaires sont les moins bien dotés de toute la France, comme l'avait d'ailleurs révélé le rapport parlementaire sur la Seine-Saint-Denis en mai dernier. La Seine-Saint-Denis est le laissé-pour-compte des moyens de l'État et le quartier de La Courtille à Saint-Denis semble en être devenu le symbole. Exemple, au lycée Paul-Éluard. Pour 2000 élèves, il n'y a que 7 surveillants et un seul médiateur. Pourtant, le lycée est devenu le terrain des expéditions punitives entre bandes rivales des quartiers de Saint-Denis. La semaine dernière, un élève a été tabassé à la sortie du lycée à 16h30, sauvé in extremis par son camarade qui a utilisé sa bombe lacrymo. Et oui, sachez que la plupart des élèves du lycée en ont une bombe lacrymo pour se protéger. Le lendemain, en représailles, une quinzaine d'enfants de moins de 16 ans est rentrée dans le lycée, armés de marteaux et de matraques. Ils ont menacé le professeur accompagné d'une dizaine d'adultes présents qui ont dû reculer alors que les intrus tabassaient au marteau un élève dans la cafétéria. Le problème, explique Mathieu Cohen, professeur de mathématiques et membre de Sud Éducation, c'est que ce genre d'expédition devient la norme au lycée.
Alors c'est quand même assez symbolique, ils se permettent de rentrer dans le lycée, ce n'était pas le cas avant. Ça envoie quand même un message, un moyen pour eux de nous dire bah, « écoutez, votre lycée c'est peanuts, nous on rentre, on fait ce qu'on veut et vous représentez plus rien ». La réponse sécuritaire, elle est à faire, je pense, même si malheureusement on se rend compte que c'est pas efficace, vu que les clôtures installées en septembre ont été découpées à la cisaille. Mais nous, on attend plus qu'une réponse sécuritaire. On pense que ça va plus loin. Nous, on en appelle à un plan banlieue pour la Seine-Saint-Denis, pour mettre plus de moyens dans l'éducation, pour les associations de quartier qui peuvent tisser du lien. Il y a eu des subventions en moins, donc ça aide pas. Nous, on en appelle à mettre des moyens, mais des vrais moyens et une vraie volonté politique pour que nos élèves aient les mêmes chances de réussir qu'ailleurs en France.
Et une journée d'action éducation est prévue à Saint-Denis le 30 mars.
Merci Cécile de Kervas-Doué. Après le plafonnement des indemnités prud'homales, invalidées par plusieurs tribunaux ces dernières semaines, le plafonnement des indemnités pour les emprunteurs floués, Bercy planche actuellement sur une ordonnance qui permettrait donc de plafonner les indemnités que les banques doivent verser lorsqu'elles sont convaincues de tromperies ou de mauvaises informations sur le coût réel des emprunts immobiliers qu'elles font contracter. On appelle ça le taux effectif global, le TEG. Plusieurs scandales de ce type sont en cours d'instruction. Et pour Jean-Yves Manot, président de la CLCV, une association de défense des consommateurs, cette ordonnance en préparation est tout simplement injuste.
L'argumentaire qui est développé n'est pas acceptable. Soyons clairs, je ne vois pas en quoi la pénalité potentielle qui doit être appliquée aux banques qui ont commis une erreur de calcul volontaire ou involontaire, mais enfin, c'est quand même les banquiers savent compter, et je ne vois pas pourquoi le consommateur qui a été lésé ne recevrait pas, à partir du moment où il a découvert cette réalité, la totalité du préjudice. Je ne vois pas au nom de quoi la notion de proportionnalité peut être appliquée à une telle règle. Alors, la jurisprudence n'est pas consciente sur le sujet, et c'est là qu'effectivement, la pénalité peut être relativement importante sur des prêts immobiliers importants et sur une durée longue, bien évidemment. Mais je ne vois pas au nom de quoi une erreur manifeste d'une banque peut être adouci par une réglementation qui serait imposée par Bercy au détriment des consommateurs.
Et est-ce que des contentieux en justice sur ce point-là, du taux effectif global, il y en a beaucoup aussi ou pas, vous savez ?
Alors, je n'ai pas les éléments. Il y en a et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Bercy bouge et que les banques bougent derrière parce que peut-être ça peut se multiplier. La mise en évidence d'anomalies de ce type pousseront vraisemblablement beaucoup de personnes à regarder de plus près le taux effectif global qu'ils payent par rapport à ce qui a été prévu contractuellement. Et donc, plus on en parle, plus il y aura de cas.
Des propos recueillis par Marie Viennot. Les députés britanniques sont sous la pression des chefs d'État et de gouvernements européens. Réunis depuis ce début d'après-midi à Bruxelles, ils ont examiné la proposition de Theresa May de reporter le Brexit de quelques semaines. Une proposition qu'ils ont acceptée à condition que l'accord de sortie du Royaume-Uni, déjà rejeté deux fois, soit finalement ratifié. Et ce, dès la semaine prochaine, faute de quoi, ont-ils prévenu, ce sera certainement un no deal. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir.
Vous êtes à Bruxelles pour France Culture. Alors, la majorité des 27 semble d'accord pour rester assez inflexible.
Oui, Emmanuel Macron a confirmé ici en début d'après-midi la position française déjà annoncée hier à Paris par le ministère des Affaires étrangères. S'il n'y a pas de vote positif à la Chambre des communes, alors nous irons dans la direction d'un no deal, explique le président français, en rappelant que l'accord de retrait tel qu'il a déjà été conclu par Bruxelles avec Theresa May ne peut pas être renégocié. Emmanuel Macron se dit tout à fait ouvert à une prolongation technique qui doit être la plus courte possible en cas de vote positif. Le chef de l'État insiste sur la crise politique au Royaume-Uni qui doit trouver une issue, avec une petite phrase remarquée, il faudrait un changement politique profond pour accorder un report sans vote. Une façon de relancer la balle dans le camp des élus britanniques. La détermination de la France à ne pas laisser traîner ce dossier semble toutefois se heurter à l'attitude plus conciliante de la chancelière allemande, en tout cas sur la méthode. Nous comprenons tous qu'il s'agit d'un tournant d'une portée historique, dit Angela Merkel, qui veut avancer avec prudence et travailler jusqu'au dernier moment pour un Brexit ordonné. Enfin, Theresa May, pour sa part, s'est contentée de plaider en faveur d'un report de courte durée permettant aux députés britanniques de faire, dit-elle, un choix définitif cohérent avec le résultat du référendum.
Et puis au Royaume-Uni, Bertrand, pendant ce temps-là, les choses bougent également en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne.
Oui, un peu comme si un certain nombre de Britanniques prenaient soudain conscience de la gravité de la situation. Patronat et syndicats supplient Theresa May de changer de paradigme sur le Brexit. Ils alertent sur une situation d'urgence nationale à 8 jours de la date théorique de sortie de l'Union européenne. Dans une lettre commune, les organisations demandent à être reçues au plus vite et réclament un plan B pour éviter d'avoir à choisir entre l'accord validé par Theresa May et un no deal. Simultanément, une pétition en ligne demandant au gouvernement britannique de renoncer au Brexit vient de dépasser le 1 million de signatures, un succès fulgurant. au lendemain de son lancement et qui témoigne de la mobilisation des anti-Brexit en ce moment crucial.
Bertrand Galichet à Bruxelles, merci beaucoup. Au Venezuela, le chef de cabinet de Juan Guaido a été arrêté cette nuit. Roberto Marrero, également député, a été embarqué par des agents des services de renseignement, le SEBIN. Juan Guaido, qui est reconnu comme président par intérim par plus de 50 pays, a immédiatement exigé sa libération. Il accuse le gouvernement de s'en prendre à ses proches pour tenter de l'affaiblir. La correspondance à Caracas de Benjamin Delisle.
Pour arrêter Roberto Marrero, les agents du SEBIN l'ont accusé de détenir deux fusils et une grenade qui se trouvaient chez lui. Des armes déposées intentionnellement par les forces de l'ordre, à en croire le député Sergio Vergara. Ce voisin du chef de cabinet a lui aussi été perquisitionné dans la nuit et a donc assisté à toute la scène. L'arrestation aurait eu lieu après au moins 2 heures de perquisition. Les agents du renseignement ont aussi embarqué le chauffeur de Roberto Marrero et pour l'instant personne ne sait où les deux hommes sont détenus. Juan Guaido s'est rendu lui-même au domicile de son collaborateur ce matin. Il a pu constater les dégâts de l'intervention des forces de l'ordre et visiter la maison laissée sans dessus dessous. Depuis qu'il a bravé son interdiction de sortie du territoire fin février, l'opposant est lui aussi menacé d'arrestation, mais il estime que le gouvernement de Nicolas Maduro s'en prend à ses plus proches collaborateurs car il n'a pas les moyens de l'arrêter. Pour Juan Guaido, cela témoigne de la faiblesse de son rival, mais aussi de la menace qu'il représente pour le pouvoir en place. Il exige la libération immédiate de Roberto Marrero, appuyé par de nombreux alliés internationaux, notamment les États-Unis qui ont rapidement condamné l'arrestation par la voix de Mike Pompeo, le secrétaire d'État.
Benjamin Delisle. Après Lula et Dilma Rousseff, c'est l'ancien président brésilien Michel Temer qui a été rattrapé par la justice brésilienne. Il a été arrêté aujourd'hui dans le cadre d'une enquête pour corruption en lien avec la construction de la centrale nucléaire Angra 3. Il est soupçonné par les juges d'être le chef d'une organisation criminelle. C'est l'un des caricaturistes algériens les plus connus en France. Ali Dilem publie quotidiennement pour le journal algérien Liberté, mais aussi en France, dans les pages de Charlie Hebdo et pour TV5 Monde. Depuis un mois, c'est au tour du mouvement contre la candidature de Bouteflika qu'il dessine tous les jours. Waïba Filali, la correspondante de France Culture en Algérie, l'a rencontrée dans son appartement à la veille d'une nouvelle manifestation dans les rues d'Alger et dans d'autres villes du pays.
Le caricaturiste nous accueille dans son appartement à Alger, c'est son bureau, c'est là qu'il passe sa journée à croquer l'un de ses sujets préférés.
J'ai les yeux du mec, il a les yeux clairs en fait, hein, Bouteflika. Il a hérité des yeux de sa mère qui a beaucoup compté dans sa vie.
Depuis le début des manifestations, dans quasiment toutes les pièces de son domicile, il laisse maintenant un ordinateur ou une feuille au cas où l'inspiration lui viendrait.
Le problème c'est le trop-plein, il faut vraiment le vivre pour le croire. C'est des gamins et des gamines dans les rues d'Alger qui était, d'un point de vue esthétique, d'une beauté sublime. Que j'ai croqué des massacres en Algérie, c'est-à-dire j'ai fait des dessins sur des massacres, il y a eu 400 morts. Hein. Mais essayer de rendre justice à travers un dessin à une jeunesse aussi belle, en même temps aussi triste, c'était quand même assez lourd.
Casquette Harley Davidson sur la tête, il nous montre quelques dessins comme celui où il remercie tout simplement les manifestants. Merci de nous rendre fiers d'être Algériens, que ce mouvement ne soit pas récupéré.
C'est leur histoire, c'est leur révolte, c'est leur colère. Et quand je vois aujourd'hui, par exemple, que l'opposition est en train d'un peu négocier l'après Bouteflika, c'est clair que c'est pas le scénario qui se dessine pour l'Algérie de demain.
Le pays mérite un autre avenir, selon lui, quoi qu'il arrive. Et il promet de continuer à coup de crayon de se moquer du président.
Et vous pouvez retrouver cet entretien avec Dilem en une de notre site franceculture.fr. À Jérusalem, le centre culturel français a été investi ce matin par la police israélienne. Motif, une manifestation culturelle organisée par une association de femmes palestiniennes, manifestation qui, selon Israël, aurait été organisée avec le soutien de l'autorité palestinienne. Le consul général de France a immédiatement protesté. C'est en effet dans une emprise française, que la police israélienne a investi sur place à Jérusalem. Étienne Monin.
Et cette affaire est à la fois une démonstration de force et de souveraineté. La police est intervenue ce matin dans l'emprise culturelle française. Elle a affiché un ordre d'interdiction qui visait l'association des jeunes filles de Jérusalem venues dans le centre pour célébrer la fête des mères palestiniennes. La police accuse cette association d'être financée par l'autorité palestinienne, ce qu'elle dément. Ce type de financement est considéré comme illégal par les Israéliens, mais ça n'est pas la première fois que cette association vient dans ce centre culturel. Il est dans la partie palestinienne de Jérusalem. Le consul général est tout de suite venu protester. Les activités du centre ont repris après le départ de la police. Ce qui est derrière cette intervention, c'est la volonté des Israéliens de couper Jérusalem de l'influence de l'autorité palestinienne. Les institutions qui sont soupçonnées d'avoir un lien politique ou financier sont ciblées. C'est une stratégie qui détache Jérusalem-Est de la Cisjordanie et c'est une façon d'asseoir la souveraineté israélienne sur la partie annexée.
Étienne Monin, un mot rapide du temps de demain vendredi, il fera beau sur la plupart des régions. Quelques brumes attendues des Pays de la Loire à la frontière belge. Les températures, elles continuent leur remontée. Il fait toujours frais le matin de 0 à 9 degrés, mais il fera bien meilleur l'après-midi de 17 à 23 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé avec Jean-François Braun.